Place Info.
Bonsoir à la une, la deuxième condamnation des Balkany qui font appel. Cette pagaille à la SNCF après un droit de retrait des cheminots. Emmanuel Macron particulièrement critique envers la Turquie. C'est dans les informés avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1, avec Hélène Risser, journaliste à Public Sénat, présentatrice de l'émission Hashtag, avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et vous, Franck Tapiro, vous êtes Chief Emotional Officer de Data Calab, le laboratoire de marketing émotionnel. J'adore votre intitulé. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Patrick et Isabelle Balkany, donc condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, 5 années de prison. Il faut le rappeler, assorti d'un nouveau mandat de dépôt pour lui, 4 ans ferme, sans incarcération immédiate pour elle. Voici les mots d'Isabelle Balkany à la sortie de l'audience.
Je voudrais simplement vous dire que comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas un centime d'argent public, c'est uniquement notre patrimoine familial et il n'y a pas de corruption.
Thomas Clay, pourquoi cette insistance sur cet aspect des choses ?
Mais d'abord, c'est faux. La fraude fiscale, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, donc c'est de l'argent public, c'est une tentative de diversion, mais il n'y a pas de... Alors, elle s'enorgueillit de ne pas être condamnée pour corruption, puisque c'est ça, elle a été relaxée, ils ont été relaxés du chef de corruption, ou pour détournement, ou pour prise illégale d'intérêt, on a les gloires qu'on peut. En l'occurrence, non, ils sont condamnés pour fraude fiscale, pour... ça, ils l'ont été, pour, ouais. Pour recel, pour... voilà, donc la condamnation, alors on va nous dire elle est lourde. L'avocat Dupond-Moretti qui a encore perdu une affaire ce soir.
On va l'écouter, tiens.
On va écouter. On va écouter, nous dire que c'est la faute de la justice. C'est jamais la faute de ses clients, c'est ni de sa défense. C'est toujours la faute de la justice, les condamnations avec Dupond-Moretti. Au fond, dans cette condamnation-là, a priori, elle la trouve proportionnée. Le chef de corruption n'est pas démontré, ça manque de preuves. Le reste est retenu. Il y a 5 ans de prison, 4 ans, et puis il y a aussi les peines pour les autres protagonistes. Hein. Il y a notamment Arnaud Claude, l'associé historique de Nicolas Sarkozy, son l'avocat associé. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le tout premier cercle de Nicolas Sarkozy ici. On peut considérer que l'addition est lourde, mais ils ont nargué la justice et les institutions pendant 30 ans, donc ils payent l'addition.
Hélène Risser, sur ce qu'a dit Isabelle Balkany à la sortie de l'audience, est-ce que c'est aussi en direction des habitants de Levallois?
Alors, sans doute, en partie. Après, moi, je suis pas spécialiste de droit. Par contre, je m'intéresse à la communication et au discours politique. C'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est assez paradoxal et peut-être qu'il y a un message à faire passer. Moi, je regardais les réactions au moment de ce verdict, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, ce jugement sur les réseaux sociaux, c'était Isabelle Balkany trop faible pour aller en prison. Son état de santé ne lui permet pas en prison, mais elle va pouvoir continuer à gérer la ville. Et donc, il y a le plan du droit et puis il y a le plan de la morale aussi. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui choque énormément. C'est OK, potentiellement, et on entendait dès ce matin, avant même le jugement, que potentiellement, si les Balkany faisaient appel, si Patrick Balkany faisait appel, il pourrait potentiellement se présenter à la mairie de Levallois. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui choque énormément et un message à faire passer, alors de la part des avocats qui les posent aujourd'hui en victime et de la part des Balkany, où après avoir quand même un peu nargué la justice en disant, voilà, Patrick Balkany disant, je ferai appel, et puis s'il appelle passe pas, j'irai en cassation, et puis si la cassation ne va pas, j'irai devant la Cour européenne. Peut-être qu'il y a un message aussi d'apaisement à envoyer, ce que fait Isabelle Balkany.
Franck Capiro ?
Il y a aussi un message de communication politique en direction, bien entendu, des municipales. Ce qui est quand même incroyable, j'ai rarement vu ça, quelqu'un qui sort d'une audience qui prend 4 ans et qui est déjà en campagne. Parce que quand elle parle de corruption, je reprends ce que vous avez dit en termes de droit, c'est pas en termes de droit qu'elle vise. Oui. Parce que les gens qui écoutent cette déclaration ne sont pas comme vous, experts en droit. Ils ne sont pas avocats. Elle s'adresse aux futurs votants de Levallois pour leur dire « je ne vous ai pas volé votre argent ». C'est ça le message qu'il y a derrière. Donc encore une fois, et vous avez raison quand vous parlez de corruption au sens des impôts, etc. Mais encore une fois, elle s'adresse.
Mais ils n'ont pas été condamnés pour corruption.
Absolument, justement. C'est pour ça qu'elle insiste en disant « Je ne vous ai pas volé votre argent, vous avez bien vu, puisque je ne suis pas condamné pour corruption. » Donc c'est un argument extraordinaire où elle s'accroche, et c'est vrai que et il faut se mettre à leur place aussi, attaquer de toutes parts, alors après, je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est trop ou pas assez, mais elle s'accroche parce qu'ils savent en fait que ce poste mais de la mairie de Levallois...
Je ne suis pas sûr que les habitants de Levallois, soient très sensibles à l'argument, de la fraude fiscale, parce que la fraude fiscale, ce n'est pas l'argent des habitants de
Levallois. Si vous le voulez bien, on va entendre les avocats dans un instant. Terminons d'abord ce tour de table avec vous, Étienne Girard. Est-ce que, au fond, ce jugement était attendu, on va dire, vous n'avez pas été surpris?
Si, j'ai été surpris. Ah oui. Notamment par l'ampleur de la peine à laquelle a été condamnée Isabelle Balkany.
Vous dites que c'est trop?
C'est pas trop, c'est sévère. La peine est lourde. C'est les deux premiers élus d'ampleur nationale qui sont condamnés à une peine de prison ferme telle que pour Patrick Balkany, il devra faire sa peine en prison, puisque rappelons-nous, Jérôme Cahuzac avait été condamné à de la prison ferme, mais de façon, comme c'était moins de deux ans, il n'a pas fait sa peine en prison. Donc sa peine a été aménagée. Là, pour Patrick Balkany, la peine ne sera pas aménagée. Il était déjà en prison. Il va rester en prison. Pour Isabelle Balkany, alors on est dans une...
Je ne sais pas si ce scénario-là était déjà écrit, hein, puisqu'il y a cette demande de remise en liberté, c'est mardi.
C'est exactement...
Donc vous trouvez ça trop lourd, hein, oui. Donc oui, pardon les mains.
Pas trop lourd, c'est sévère, c'est un événement qui va marquer l'histoire de la justice française, dans le sens où désormais, quand un élu fraudera, fera un crime financier, il aura au-dessus de la tête cette épée Damoclès de la peine de prison.
Jurisprudence Balkany, dit Franck Tapiro. On va marquer une petite pause pour le rappel de l'info et on va entendre les deux avocats, hein, maître Éric Dupont-Moretti et maître Pierre Olivier Sûr, pour leur 20h10, l'info avec vous, Jules De Kiss.
La SNCF dit tout mettre en œuvre pour un retour à la normale demain matin, jour de départ en vacances. La circulation des TER est restée très perturbée toute la journée. 2 trains sur 10 en région Occitanie et PACA par exemple. Situation très difficile en Île-de-France également. Des conducteurs et contrôleurs exercent leur droit de retrait après un accident dans les Ardennes sur un passage à niveau il y a 2 jours. Grève déguisée sans préavis, s'insurge la compagnie ferroviaire pour expliquer aussi le manque d'information des voyageurs. Au lendemain de l'annonce d'une trêve dans le nord de la Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan avertit qu'il reprendra son offensive mardi prochain si les forces kurdes ne se replient pas comme il le leur demande. Une trêve qui n'est pas respectée d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 14 civils sont morts dans des frappes turques aujourd'hui. Engie est condamné à payer 900 000 euros d'amende pour démarchage abusif, annonce la répression des fraudes. Il est reproché aux fournisseurs d'énergie d'avoir conclu des contrats après de simples appels téléphoniques sans qu'une lettre ou un email de confirmation ne soit envoyé. Il a également refusé des droits de rétractation pour des motifs illégitimes. C'est un coup de pouce au pouvoir d'achat de millions de Français. L'Assemblée nationale valide la suppression de la taxe d'habitation. Elle est étendue à 8 ménages sur 10 pour l'année prochaine. En 2023, tout le monde sera concerné. Les communes pour lesquelles cela représente un manque à gagner auront des compensations. Et puis dans une grosse demi-heure maintenant, c'est le retour de la Ligue 1 de football, ouverture de la 10e journée, avec Nice qui accueille un Paris Saint-Germain privé de Neymar.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je vais vous faire réagir aux déclarations des avocats des époux Balkany. Nous commençons par maître Éric Dupont-Moretti, qui a pris la défense de Patrick Balkany. Il a dit, il a déclaré sur France Info, il a parlé d'une monstruosité. On l'écoute.
En termes de quantum de peine, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. C'est du jamais vu, c'est un record. On a atteint et même dépassé des sommets. Et moi, j'estime qu'une décision de cette nature, ça déchire aussi le pacte républicain, pour reprendre les mots du jugement. C'est de l'argent familial qui a échappé à l'impôt. Mais ça ne vaut jamais 9 ans d'emprisonnement, parce qu'on en est là aujourd'hui. Mais je dis qu'on s'est payé Balkany.
Thomas Clé, monstrueux.
C'est la défense de Dupont-Moretti qui est monstrueuse. Qu'est-ce que je vous dis? C'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand il perd, c'est de la faute de la justice. Alors, il perd souvent. Il a perdu dans le procès Mera, il a perdu dans le procès Cahuzac. Et donc, il s'en prend aux institutions. Il se fait appeler, je l'ai déjà dit à ce micro, il se fait appeler acquittator, mais c'est condamnator, son vrai nom. Voilà. Alors, 9 ans. Il nous dit 9 ans. C'est intéressant, parce qu'évidemment, il veut frapper les esprits.
Oui.
9 ans, c'est la peine cumulée de la première condamnation et de la deuxième condamnation. Sauf qu'à ce jour, on ne sait pas si ces peines vont opérer ce qu'on appelle la confusion de peines.
Confondues, elles
vont s'ajouter, au contraire, fusionner. Si elles sont fusionnées, ça sera la peine la plus élevée, donc 5 ans qui sera prise en compte. Si c'est 5 ans, avec le jeu des remises de peines, peut-être des libérations anticipées, on est sur des échéances qui sont plutôt de 2 ans et demi, 3 ans. Est-ce que c'est monstrueux? On parle quand même de 13 millions d'argent détourné, non déclaré, enfin de fraude fiscale, l'acquisition de somptueuses villas, un train de vie de prince saoudien pendant des décennies, et tout ça en faisant jouer l'immunité, notamment parlementaire, les réélections qui sont censées laver plus blanc, tout ça me semble pas du tout monstrueux, mais parfaitement proportionnel.
Franck Tapiro, sur l'argument du pacte républicain déchiré, nous dit maître Éric Dupond-Moretti.
C'est un peu compliqué parce qu'il s'agit quand même d'élus. Donc des élus qui ont fait une faute. Un élu qui fait une faute, je pense qu'il déchire lui-même le pacte républicain. Voilà. Donc à un moment, c'est quand même aberrant. Quand on entend Dupond-Moretti, parfois, sincèrement, je pense qu'il est un peu en court-circuit. Il finit par se prendre pour Dupond-Moretti, être en court-circuit avec lui-même, et en fait que vraiment, tous ces arguments peuvent être retournés contre lui d'une façon extrêmement simple. Qu'on connaisse le droit ou non. En fait, c'est pas un problème de droit qu'il a, Dupond-Moretti. C'est un problème de communication. Je pense qu'il se prend pour un autre depuis quelques temps. Et à chaque fois qu'il parle, je me dis, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Dire un truc pareil alors qu'il s'agit d'un élu qui, en plus, faisait le fanfaron depuis une trentaine d'années, en disant même pas pris, le jour où il se fait prendre, déjà, un peu d'humilité. Mais de dire que c'est monstrueux et que le pacte républicain est déchiré par, non pas l'élu qui est condamné, mais par la décision de justice, c'est surréaliste. Et pour moi, c'est pas une bonne pub pour les avocats.
Étienne Girard, sur ce nous a dit maître Éric Dupond-Moretti, vous partagez le point de vue de vos voisins?
Oui, totalement. Ouais. Il est à côté de la plaque, Dupond-Moretti. C'est incroyable. Non. Cette affaire de pacte républicain, si on décortique ce qui nous explique. Donc il explique que quand on fait de la délinquance en col blanc, c'est-à-dire quand c'est de la délinquance financière, finalement le pacte républicain veut qu'on n'aille pas en prison. Voilà, on est assuré de ne pas aller en prison, ce serait ça le pacte républicain. Mais c'est ne rien comprendre à la défiance grandissante que nos citoyens ont envers les hommes politiques. Ils sont tous soupçonnés désormais à cause d'agissements comme ceux de Patrick Balkany, d'être des délinquants financiers en puissance. Je pense qu'au contraire, Franck Tapiro l'a dit, le pacte républicain, il est déchiré quand Patrick Balkany soustrait des sommes à l'effort collectif. Oui.
Enfin, pour Hélène le coup, on se demandait tout à l'heure... si Isabelle Balkany parlait aux habitants de Levallois. Voilà, pour le coup, lui, on a l'impression que c'est à eux qu'il parle, parce qu'il joue vraiment une stratégie. Bah, vous qui êtes communicant, vous devez... Je sais pas, il paraît que c'est une bonne vieille stratégie de communication, qui est la victimisation, mais vraiment, plus c'est gros, plus on pense que ça va passer. Et effectivement, je pense sans doute que parmi les habitants de Levallois, et d'ailleurs, on en a vu beaucoup dans les médias, et ça a participé aussi à cette espèce d'exaspération du deux poids, deux mesures que vous citez, qui était effectivement ces micros tendus à tous ces habitants de Levallois qui soutenaient les Balkany,
qui vont payer la dette.
Qui a prouvé, qui vont peut-être, on va peut-être faire une souscription pour payer la facture. Non, mais voilà, donc effectivement, je pense que c'est une stratégie de communication vis-à-vis des habitants de Levallois.
Il y a quand même une personnalité qui a parlé, qui a défendu Isabelle Balkany, c'est son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, que j'ai reçu tout à l'heure dans le 18-50 France Info, qui a parlé avec une certaine émotion de sa cliente, notamment évoquant l'exercice de la justice.
Le juge, il a sans doute voulu, à travers Balkany, faire ce qu'on appelle un effet annonce. Un effet annonce pour dire que la société, que la République réagit sur la matière fiscale à travers eux, parce que j'ai l'impression que c'est comme si un nouveau monde jugeait un ancien monde et que les Balkany participent à quelque chose qu'on déteste aujourd'hui, et sans doute à juste titre, sauf que ce qu'on déteste aujourd'hui, on l'adulait hier. Mais je dis qu'il y a aujourd'hui un singulier dialogue entre les juges et les gens. Les juges qui condamnent à de la prison ferme et les gens à Levallois qui adorent et qui soutiennent et qui aiment les Balkany et qui ne lui reprochent rien dès lors qu'il n'y a pas d'argent public détourné et de corruption avérée.
Intéressant ce que dit maître Pierre-Olivier Sûr, Thomas Clay, évoquant une justice qui peut-être aurait dépassé un petit peu le cadre purement judiciaire et aurait un petit peu surfé sur une situation politique, l'ancien monde et le nouveau monde, nous explique l'avocat Isabelle Balkany.
C'est la preuve qu'il est possible de faire des défenses raisonnables, des défenses intelligente, des défenses qui parlent à l'intelligence des gens et non pas forcément à l'émotion ou à la recherche du scandale. Ce que dit Pierre-Olivier Sûr, je suis évidemment pas d'accord avec ce qu'il dit là, mais au fond, il dit quand même que Patrick Balkany est un homme d'un autre temps. Et qu'il a, et c'est vrai, il a plus sa place, enfin ses pratiques n'ont plus leur place dans la France du 21e siècle, et d'ailleurs, force est qu'il en a été écarté, force est de le reconnaître. Maintenant, ce qui est en train de monter, c'est la défense d'Isabelle Balkany, qui est une défense effectivement politique, les Levalloisiens vont me blanchir, alors que l'élection, le suffrage n'est pas là pour blanchir des condamnations, c'est pas l'objet, et par ailleurs, ce qu'elle a déjà mis en scène depuis d'ailleurs le procès, c'est sa santé, sa souffrance, au procès elle n'y a pas assisté, en raison d'une tentative de suicide.
Et vous prétendez qu'il n'y a ni problème de santé ni souffrance, vous ?
Je ne sais pas. Une tentative de suicide 15 jours avant l'audience, bon, je comprends que l'audience puisse effrayer, admettons. On a un tweet cet après-midi d'Isabelle Balkany qui nous dit « Ma seule raison de vivre, c'est les Levalloisiens ». Bon, on voit bien ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire ça va être un chantage à l'émotion. Voilà.
Franck Tapiro. Je suis d'accord, mais en fait, parce qu'il y a un rôle expiatoire, en fait, du scrutin. On oublie qu'en fait, la vraie cour d'appel pour les Balkany aujourd'hui, c'est pas la cour d'appel, c'est les municipales. D'un point de vue symbolique, le fait d'être élu, malgré tout cela, et d'être élu malgré cette condamnation, c'est une forme de victoire. Alors, certes, mince, parce que quand on passe sa vie en prison...
Il ne peut pas se présenter, lui.
Non, je parle d'elle.
Oui.
Mais quand on dit... Maintenant, on dit les Balkany, vous avez remarqué qu'on ne dit plus...
Oui, c'est vrai.
Lui, on dit les Balkany. Et donc, même si un des deux Balkany est en prison, si l'un des deux est élu, quel qu'il soit, c'est une victoire pour les deux. Et c'est le tandem, et d'ailleurs c'est un tandem assez, là-dessus, émouvant, je dirais, puisque depuis des années, on voit comment ils se soutiennent, c'est assez hallucinant, quelle que soit l'adversité.
Oui,
c'est une très belle histoire. Donc, il y a une part d'humanité, il y a une part d'émotion réelle, et c'est ça qu'elle s'accroche à cela. Et je trouve ça plus émouvant d'un point de vue humain que d'un point de vue électoral, finalement, de se dire ma cour d'appel, c'est les municipales. Si je suis élu quelque part, on aura montré aux Français qu'à Levallois, on nous croit, qu'à Levallois, on est derrière nous, et finalement, on n'est pas si coupable que ça.
Nous allons essayer d'imaginer justement ce qu'il pourrait se produire à Levallois-Perret dans les mois qui viennent. Nous marquons une pause. Le rappel de l'info à 20h et 20 minutes sur France Info avec vous, Jules Dequis.
Les voyageurs touchés par des retards ou des annulations aujourd'hui dans les TER auront des compensations, assure ce soir la SNCF. La compagnie ferroviaire annonce tout mettre en œuvre pour un retour à la normale demain alors que les vacances de la Toussaint commencent. Le trafic des trains a été très fortement perturbé aujourd'hui. Des conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait après un accident sur un passage à niveau dans les Ardennes il y a deux jours. Une grève sans préavis dénonce la direction de la SNCF. Isabelle et Patrick Balkany font appel de leur condamnation pour blanchiment de fraude fiscale aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Le maire de Levallois-Perret écope de 5 ans de prison avec mandat de dépôt, 4 ans pour son épouse. Tous deux sont également condamnés à 10 ans d'inéligibilité. De nouveau heurts à Barcelone ce soir, 5e jour de manifestation des indépendantistes. Ils sont appelés à une grève générale. Ils sont plus de 500 000 rassemblés dans les rues de Barcelone d'après la police catalane. Ils dénoncent toujours la condamnation de certains de leurs dirigeants à des peines de prison pour avoir organisé un référendum d'indépendance. Le bilan s'élève maintenant à 62 morts dans l'attentat qui a frappé une mosquée à l'est de l'Afghanistan ce matin pendant la prière du vendredi. C'est le deuxième attentat le plus meurtrier de l'année dans le pays. Les talibans condamnent et pointent du doigt le groupe État islamique. Et puis Jean-Michel Martial est mort à 67 ans. Le comédien et metteur en scène était un visage. De bon nombre de téléspectateurs ont pu le voir dans Plus belle la vie ou encore dans Les Cordiers juges et flics. C'était aussi une voix. Il a doublé des personnages dans Pulp Fiction, South Park ou Le Cinquième élément.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le scénario d'un couple Balkany en campagne électorale des municipales, avant un procès en appel, est-il envisageable? Didier Schuller, ancien élu des Hauts-de-Seine, ancien bras droit de Patrick Balkany, considéré comme son tombeur en quelque sorte, a exigé sur France Info la démission du couple Balkany.
La dignité, ce serait d'abandonner aujourd'hui même leur fonction élective. C'est le minimum qu'ils puissent faire. Notamment, Mme Balkany, qui vient d'être condamnée à 4 ans de prison ferme, veut continuer à être maire de Levallois par intérim. Écoutez, c'est vraiment, ça donne une image de république bananière. C'est absolument épouvantable par rapport au principe même de la démocratie française. C'est inimaginable de penser que deux élus, le maire et sa première adjointe qui est actuellement maire par intérim, puissent continuer à gérer une commune de 65 000 habitants alors qu'ils ont été condamnés à plusieurs années de prison ferme l'un et l'autre.
Étienne Girard, on a la sensation en écoutant M. Didier Schuller que c'est un petit peu la vie d'avant des Hauts-de-Seine qui revient comme un boomerang. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr. Et bien sûr que Maître Sûr, il est malin quand il explique que les Balkany, c'est la vieille école et qu'on est en train de juger, que le nouveau monde est en train de juger un ancien monde un peu old school. Et peut-être que... ça m'étonnerait, mais peut-être qu'au municipal de 2020, les Levalloisiens vont signaler leur amour à Isabelle Balkany en la réélisant malgré sa condamnation en première instance. Mais il faudrait quand même rappeler que la justice, elle se rend au nom du peuple français, pas au nom du peuple de Levallois. Et c'est pas parce qu'on est aimé par les Levalloisiens, c'est pas parce qu'on est jugé digne d'être un représentant par les habitants de Levallois qu'on est innocent sens de la justice française. Ça n'effacera pas la condamnation. Ce qui va se passer, même si Isabelle Balkany gagne les municipales de 2020 à Levallois, elle sera sans doute condamnée en appel à une peine d'inéligibilité et elle devra lâcher son mandat. Le droit public gagne à la fin.
Hélène Risser, sur ce scénario, cette éventualité d'une campagne étonnante à venir d'Isabelle, notamment Balkany à Levallois.
Oui, vous êtes même de Patrick Balkany, d'ailleurs, éventuellement, dans certains cas, ça pourrait être envisageable, si j'ai bien compris, dans certains scénarios. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez incroyable, parce que normalement, quelqu'un d'inéligible, condamné à une peine d'inéligibilité, ne devrait pas pouvoir se présenter. Et donc, normalement, c'est pas le suffrage universel contre la justice. Normalement, c'est pas... On choisit pas sa cour. Ouais. Mais là, il y a le problème du calendrier et du fait qu'effectivement, avec cet appel, s'il n'y a pas de remise en liberté de Patrick Balkany mardi, bien visiblement, l'appel devrait être dans un temps relativement court. Donc on voit bien qu'il y a un télescopage du calendrier électoral et du calendrier judiciaire qui pose problème. Parce que de fait...
Alors justement, je me tourne vers le professeur de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Thomas Clay. C'est possible?
Non, en réalité, ce n'est pas possible.
Expliquez-nous.
Ce qu'il faut bien comprendre dans la décision d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un deuxième mandat de dépôt. Et quand bien même, si par extraordinaire, comme disent les juristes, le mandat de dépôt de la première condamnation était levé ce mardi, le second mandat de dépôt resterait en vigueur. Donc de toute façon,
mais
il restera en vigueur.
Mais quelques jours de plus, ça va...
Isabelle Balkany, elle peut se présenter.
Non, mais là, on est sur le cas de Patrick Balkany. Voilà, donc c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. En fait, il y a deux types de peines. Il y a la peine d'inéligibilité, qui est suspensive lorsqu'un appel est formé, et puis il y a le mandat de dépôt qui n'est pas suspensif, et tant qu'on est en prison, on ne peut pas se présenter, c'est heureux. Et elle, en quelque sorte, elle se targue du fait de ne pas avoir eu de mandat de dépôt, mais simplement une condamnation à une inéligibilité de 10 ans quand même, pour dire « je peux me présenter ». Mais simplement, évidemment, la pression va être extrêmement forte. Et puis, ce qui est compliqué quand même, c'est d'aller faire campagne, que Franck Tapiro disait qu'elle parle aux Levalloisiens, en disant « j'ai été condamné uniquement pour blanchiment et fraude fiscale, c'est pas grave, ça vous concerne pas, et en plus, j'ai fait appel, donc pour l'instant, je suis éligible. C'est politiquement très difficile à tenir. Et d'ailleurs, dès ce soir, il y a un communiqué du Parti Socialiste qui nous dit qu'ils doivent se retirer.
Puis maintenant, encore une fois, depuis des années, depuis 30 ans, il y a un État dans l'État, Levallois. J'ose le dire, je le disais avant, la balkanisation des Hauts-de-Seine. On sait très bien que ce qui se passe à Levallois, on a l'impression que ça se passe qu'à Levallois et nulle part ailleurs. Ce que vous dites est totalement vrai, sauf à Levallois, avec les Balkany.
Le monde a changé, comme dit le bâtonnier.
Encore une fois, je ne dis pas qu'elle va gagner si elle se présente. Je dis qu'en tout cas, elle ose et elle a ce culot ou le courage, mais il y a un peu des deux là-dedans, de se dire, parce que aussi ils sont au pied du mur, quelque part, il ne lui reste que ça. Moi, je suis absolument convaincu que dans sa tête, elle doit se projeter maire de Levallois en disant, même si je reste pas maire longtemps, parce que peut-être que ma condamnation va m'empêcher d'aller au bout, quelque part, cette forme de victoire, je m'y accroche. Et je pense que les deux s'y accrochent d'une façon vitale. Donc, on sort
complètement... Il y a une autre option, Franck Tapiro. Oui. C'est aller en appel, avoir un profil humble, reconnaître ses erreurs et avoir une peine beaucoup plus légère.
Dans un monde normal,
un avocat qui conseille
bien. Levallois n'est pas un monde normal, vous savez très bien.
Allez, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de ce deuxième jugement dans le procès des époux Balkany. Et j'entends bien notamment la démonstration de Thomas Clay, l'histoire reste à écrire. On ne sait pas vraiment tout à fait ce qui va se produire. Cela dépendra des décisions qui seront prises en matière judiciaire.
Très vraisemblablement, Patrick Balkany ne sera pas en position juridique de se présenter.
Nous marquons une pause dans les informés, 20h et 28 minutes. Une pause pour la météo et puis pour le rappel de l'info. Et on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer notamment le mouvement qui se produit encore ce soir à la SNCF. A tout de suite.
Demain, j'ai un point avec mon expert comptable. Tu sais où sont passées mes dernières factures ?
Il les a déjà. Je lui transmets tout en temps réel. Par contre, tu as deux impayés. On ferait mieux de relancer tes clients.
T'oublies jamais rien, toi ?
J'ai oublié le code Wi-Fi, une fois.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 70 ans. Soucieuse de l'avenir des futures générations, j'ai décidé de faire un legs au Secours Populaire. Il me tient à cœur que mon patrimoine soit utile à ceux qui en ont le plus besoin, en France et dans le monde.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
France Info Météo, avec Gauthier. Fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions, avec vous Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Une nouvelle onde pluvieuse va gagner les côtes atlantiques cette nuit. Demain, nous allons retrouver une large bande de pluie de l'Aquitaine à la région Poitou-Charentes, de l'Auvergne à la région Centre et de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Grand Est. Les pluies associées seront généralement faibles. Elles seront un peu plus marquées l'après-midi vers le Jura et la plaine d'Alsace. À l'arrière, dans un grand quart nord-ouest, établissement d'un ciel de traîne avec des averses. On surveillera un axe de pluie orageuse des Cévennes à l'Ardèche et du Lyonnais au nord des Alpes. Et attention, les cumuls de pluie risquent d'être localement importants et proches de 60 mm. Une bonne nouvelle tout de même, comptez sur d'assez belles éclaircies entre Midi-Pyrénées et le Roussillon et un franc soleil en Corse. Les températures seront stationnaires avec des maximales évoluant entre 15 et 25 degrés du nord au sud.
(Rire) 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Les époux Balkany condamnés donc à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. En revanche, ils ont été relaxés des accusations de corruption qui pesaient sur eux. Écoutez la réaction sur France Info de Jean-Christophe Picard, le président d'Anticor, l'association de lutte contre la corruption.
C'est toujours compliqué de démontrer un pacte de corruption, il faut qu'il y ait une contrepartie, démontrer que la contrepartie est en lien direct, enfin, c'est extrêmement compliqué. Enfin, il n'y a quand même pas de corruption, certes, mais il y a du blanchiment aggravé, c'est-à-dire commis de façon habituelle, le blanchiment de fraude fiscale sur 13 millions, c'est quand même assez grave. Hein. D'ailleurs, les 50 prisons n'y sont pas pour rien. Et donc, certes, pas de corruption, mais il y a clairement à la fois fraude fiscale et à la fois blanchiment aggravé de fraude fiscale. Je remarque d'ailleurs que c'est quand même toute la famille, hein. Enfin, je veux dire, quelle famille ? Isabelle, Patrick, Alexandre, toute la famille a commis ce délit. Et donc, pour moi, c'est quand même, même s'il n'y a pas de corruption, ça reste quand même quelque chose d'assez grave.
Jean-Christophe Picard, le président de l'association de lutte contre la corruption, Anticor. La SNCF promet de tout mettre en œuvre pour un retour du trafic à la normale demain matin, à la veille des vacances scolaires. Des conducteurs et contrôleurs ont en effet fait valoir leur droit de retrait après un accident qui a fait plusieurs blessés hier en Champagne-Ardenne, dont un conducteur de train. Les TER ont été les plus touchés. La direction de la SNCF dénonce une grève sans préavis. Un frère de la communauté de Thésée en Bourgogne, mis en examen pour viol et agression sexuelle, il a été placé en détention provisoire. Une femme l'accuse de manipulation et de harcèlement spirituel, psychologique et sexuel donc. Une situation selon elle débutée en 2003 et qui a duré de nombreuses années. Après une nouvelle nuit de barricades, plus de 500 000 indépendantistes, un demi-million selon la police, manifestent ce soir à Barcelone, toujours contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Le match de football, le Classico FC Barcelone contre Real Madrid, est reporté par crainte de débordement. Le match de club le plus suivi au monde devait avoir lieu la semaine prochaine à Barcelone. Des avions au vin en passant par des fromages et des engins de chantier. Comme prévu, les États-Unis ont commencé à appliquer des taxes douanières sur 7,5 milliards de dollars de produits européens en représailles aux subventions accordées à Airbus. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, affirme ce soir que l'administration Trump a ouvert
ouvert la porte à des négociations sur ces tarifs. C'est du jamais vu depuis la guerre des Malouines il y a 37 ans. Séance exceptionnelle un samedi demain à Westminster pour le Parlement britannique. Après l'accord sur le Brexit arraché auprès de l'Union européenne, le Premier ministre va essayer de convaincre les députés.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquilini.
La deuxième partie des informés de France Info avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1, Hélène Risser, journaliste à Public Sénat, présentatrice de l'émission, l'excellente émission Hashtag, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Franck Tapiro, qui est Chief Emotional Officer de Data Calab. C'est le laboratoire de marketing émotionnel. Alors s'agit-il d'un droit de retrait ou d'une grève surprise qui ne dit pas son nom à la veille tout de même de départ massif en vacances? Le trafic SNCF, vous le savez, reste fortement perturbé ce soir sur le réseau TER, certaines lignes franciliennes, des conducteurs, des contrôleurs faisant valoir leur droit de retrait après cet accident ferroviaire survenu mercredi soir. Écoutez ces témoignages de voyageurs qui se sont retrouvés quelque peu piégés.
Moi, ça fait 2 heures que je suis dans le transport, en train de courir droite et gauche. Alors, rien à marre.
C'est un vrai bordel et inapproprié. Enfin bon, je sais pas. Surprise, mais quand même, faut penser à ceux qui travaillent. On n'a pas le choix.
Je loupe mon entretien pour un emploi sur Marseille ou sur Paris. Donc, voilà les conséquences, en gros. Donc, c'est peut-être pas grave pour eux, parce qu'ils retravaillent demain ou un autre jour. Mais nous, on sait pas quand on va travailler, du coup.
Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien annoncé. C'est vraiment la galère, hein.
On reporte le voyage, certainement demain, si s'il y a des trains, bien entendu.
Ils ont peut-être raison, hein, mais je pense qu'ils ont raison. Ça fait chier tout le monde, mais voilà quoi.
Étienne Girard, ce dernier voyageur a peut-être bien résumé la situation avec ses mots à lui, ses mots crus, mais ils ont peut-être un petit peu raison, même si ça ennuie quelque part les voyageurs. Qui dit vrai? Qui a raison dans cette histoire?
En tout cas, c'est votre question de départ qui était est-ce que c'est une grève ou un droit de retrait?
Oui.
C'est un peu des deux. Mais il faut bien comprendre que c'est avant tout un rapport de force avec le nouveau président de la SNCF, Monsieur Farandou. On peut pas comprendre cette affaire-là si on retient pas ce qu'a dit Monsieur Farandou devant les députés quand il était auditionné pour devenir le patron de la SNCF. Il a expliqué que les agents de la SNCF, ils devaient apprendre à exercer plusieurs métiers. Quand on bosse, quand on est cheminot, on doit faire plusieurs tâches. On doit être capable de faire plusieurs tâches.
Ça, c'est la réforme de la SNCF, hein, vous savez.
Oui,
c'est le nouveau statut des cheminots. Il faut qu'ils fassent plusieurs métiers en même temps.
Mais ça, cette idée-là, exprimée par Farandou, qui est un ancien cheminot...
Un vrai cheminot.
Oui. Ça a révolté les agents de la SNCF. Et donc les agents de la SNCF, depuis cet épisode-là, ils n'attendent qu'une occasion pour exprimer ce malaise qui dure depuis des années, qu'ils expriment depuis des années, devant l'idée qu'ils sont livrés à eux-mêmes, dans leur, notamment le personnel roulant, comme on dit, qu'ils peuvent être tout seuls dans des TER. Et donc, ils ont saisi cette occasion-là, ce fait divers de l'accident avec le conducteur du train qui était tout seul, pour marquer le coup. Pour exercer une forme de pression, une forme de coup de semonce contre la direction de la SNCF, et pour expliquer maintenant ça suffit. Et donc c'est l'idée de la grève, de l'emmerdement maximum pour peser dans le rapport de force.
Je vais continuer ce tour de table sur ce qui se passe à la SNCF qu'il faut lire, hein, après au fond cette réforme qui se sera passée à peu près facilement malgré les grèves répétitives dans l'acte du quinquennat d'Emmanuel Macron. Je vous fais écouter tout d'abord, parce qu'il faut les entendre, les arguments de la CGT, hein, qui conteste le fait de conduire seul sur certains trains. Écoutez Cédric Robert, il est secrétaire fédéral CGT Cheminots.
Le conducteur étant seul a dû et à la fois protéger son train pour éviter un suraccident et à la fois prendre en charge les voyageurs dont un certain nombre étaient blessés. La présence d'un contrôleur aurait permis d'améliorer la chaîne de sécurité de prise en charge des voyageurs. On souhaite qu'effectivement que la direction de l'entreprise, et y compris le gouvernement d'ailleurs, prenne en compte la situation qui est quand même explosive sur l'ensemble du territoire. C'est de la responsabilité de la direction de la SNCF. Il ne tient qu'à elle que de répondre favorablement aux revendications pour apaiser la situation sur l'ensemble du territoire.
Hélène Risser, on avait la sensation que la réforme de la SNCF allait fabriquer allez produire le cheminot 2.0, 3.0, nouvelle génération avec un nouveau statut, qu'au fond les choses étaient à peu près réglées, mais apparemment il y a toujours des soucis au sein de la SNCF.
Oui, bah, visiblement, oui. Et puis alors, effectivement, il y a la question de la polyvalence, puis il y a la question d'être seul ou à plusieurs, hein, parce qu'on pourrait être plusieurs polyvalents et les cheminots pourraient être à plusieurs. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se jouent. Moi, ce que je trouve assez intéressant et assez subtil, parce qu'effectivement, alors, la question du droit de retrait, tout le monde s'est penché aujourd'hui. Alors, c'est quoi exactement le droit de retrait? Ah oui, c'est cette possibilité, hein, de, voilà, quand on estime que sa sécurité, ou sa vie, mais bon, là, c'est, est en danger, de se mettre en retrait, on touche son salaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais des juristes qui expliquaient que la définition était très souple et très subjective. Il suffit qu'on se sente potentiellement en danger pour faire valoir son droit de retrait. Et d'ailleurs, ce droit de retrait pourrait être éventuellement contesté par la SNCF devant la justice, puisque la SNCF considère que c'est une grève sans préavis, d'ailleurs comme le gouvernement, hein, qui parle de grève aussi, donc on voit bien qu'on est vraiment dans un débat sémantique. Mais évidemment, contester ce droit de retrait, c'est prendre le risque d'être mis face à l'obligation d'assurer la sécurité telle qu'elle a été remise en cause. Donc je trouve que c'est extrêmement habile de la part des syndicats et d'avoir fait valoir ce droit de retrait en plus dans ce contexte aujourd'hui, jour de départ en vacances, qui fait une espèce de simulation géante avec, je crois, 50% des TER, une simulation géante. Ça projette tous les usagers dans ce que pourrait être le mois de décembre, vacances de Noël.
Justement, parce qu'il y a en fait une conjonction de deux contextes complètement différents finalement, parce que hier, quand la grève surprise est arrivée, tout le monde a pensé d'abord à cet échauffement.
Le droit de retrait surprise.
Par rapport aux retraites. Par rapport à tous les statuts. Personne n'a parlé d'abord du statut de
poids zéro, trop poids zéro. La retraite, c'est ça.
Exactement, par rapport à cette grève de début décembre. Et hop, rétro-pédalage, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement une problématique qui était peut-être un peu plus importante, que peut-être que cette revendication était peut-être plus juste. Et donc, il y a un double contexte assez étonnant. C'est que, finalement, c'est le cumul des mandales, hein, moi j'appelle ça. C'est non seulement il y a un problème par rapport à leur métier de tous les jours, parce qu'ils se sentent seuls, et en même temps, on prépare aussi ce qui va se passer début décembre. Donc, quelque part, c'est une façon d'emmener les gens et de dire, attention, il va se passer des choses, mais c'est pas uniquement pour faire chier tout le monde, comme l'a répété la personne tout à l'heure. C'est peut-être aussi pour exprimer une problématique réelle de leur métier de tous les jours.
Alors, y a-t-il une forme de « et en même temps » dans ce à quoi nous assistons aujourd'hui ?
On
va poser la question à Thomas Clé dans un instant. D'abord, moi, je vous propose de marquer une pause. 20h40 sur France Info, c'est le rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
La réaction d'Éric Dupond-Moretti sur France Info. L'avocat de Patrick Balkany estime que son client est l'objet d'une condamnation monstrueuse, que c'est du jamais vu et un record pour une affaire du genre. Le maire de Levallois-Perret est condamné à 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale par le tribunal correctionnel de Paris. Son épouse Isabelle écope de 4 ans mais sans mandat de dépôt. Les avocats du couple font appel. Dans ce même procès, les époux Balkany sont relaxés pour les faits de corruption. Il n'y a pas de meilleure issue pour le Royaume-Uni que l'accord négocié avec Bruxelles, d'après Boris Johnson. Le Premier ministre britannique espère que son Parlement votera demain ce texte déjà accepté par les 27. S'il est rejeté, alors Londres prévoit de sortir même sans accord le 31 octobre. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron juge lui aussi qu'il n'est pas souhaitable que ce divorce soit à nouveau reporté. Donald Trump assure que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan est déterminé à appliquer la trêve annoncée hier, la trêve en Syrie. Déclaration du président américain alors que les forces turques ont à nouveau bombardé les Kurdes aujourd'hui dans le nord du pays. 14 civils sont morts d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La France, l'Italie, l'Allemagne ne veulent pas en Europe de la crypto-monnaie lancée par Facebook. Le géant américain veut mettre la Libra en circulation dès l'année prochaine. Mais ces trois pays préparent des mesures pour mettre leur veto. Le ministre français de l'économie explique qu'il ne veut pas d'une monnaie administrée par une puissance privée qui, à l'inverse d'un État, n'est pas soumise au contrôle démocratique. Et puis Nice-PSG, ça commence dans même pas 5 minutes. Début de la 10e journée de Ligue 1 de football à l'Allianz Riviera. La reprise du championnat de football après la trêve internationale.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sommes-nous dans une forme de « et en même temps », comme le suggérait à l'instant Franck Tapiro, à savoir sur les conditions de travail, mais en même temps le mouvement de contestation de la réforme des retraites. Je vous propose d'abord d'écouter ce qu'a évoqué ce matin Jean-Baptiste Djebbari à propos de ce mouvement à la SNCF. Le secrétaire d'État aux transports était l'invité de BFM TV.
Vous avez un événement de sécurité, une incivilité majeure, un accident majeur, vous pouvez opérer un droit de retrait. Là, la CGT, pour être clair, conteste effectivement, que les conducteurs de la SNCF conduisent seuls. Or, ils conduisent seuls depuis 10 ans sur le réseau transilien. Les trois quarts des TER sont exploités seuls à bord. C'est une mesure de conduite qui est homologuée, qui est autorisée par la sécurité ferroviaire française, qui est pratiquée partout en Europe. Et la CGT, depuis tout le temps, conteste cette mesure. Et ce n'est évidemment pas normal de prendre les usagers à témoin. Ce n'est pas admissible.
Alors Thomas Clay, ce que semble dire le ministre, vrai ou faux, c'est qu'au fond, ce dispositif conduire seul ne semble pas nouveau. Ce n'est pas une nouveauté. C'est du moins ce qu'il affirme chez nos confrères.
Pour vous dire la vérité, moi je suis pas un spécialiste de la conduction des trains, même si votre émission s'appelle Les Informés, mais pour reprendre la question que vous posiez, est-ce que c'est le en même temps d'Emmanuel Macron? Je suis pas sûr qu'effectivement Emmanuel Macron avait ce type d'en même temps dans sa campagne ou dans son logiciel politique quand il s'est lancé. Plutôt, je dirais, c'est de faire d'une pierre deux coups ou même d'une pierre trois coups, parce que c'est le droit de retrait, l'enjeu des retraites qui est évidemment la bagarre sociale et politique qui arrive, et puis, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, par le fait de faire pression sur le nouveau président de la SNCF, qui était pourtant bien accueilli au départ par les cheminots. Ouais. Et quant au droit de retrait proprement dit, puisque la question, l'analyse juridique a été portée par Hélène Risser, avec beaucoup de talent, comme d'habitude, en réalité, le droit de retrait jusqu'à présent, c'était lorsque un collègue est agressé dans son travail, et les autres, par solidarité, par protection, se mettent en retrait, et c'est à la différence de la grève, effectivement, ce sont des jours de travail qui sont rémunérés. Là, c'est autre chose, à une forme de droit de retrait exogène, c'est-à-dire l'agression par l'extérieur, c'est une extension vers un droit de retrait endogène, c'est-à-dire les conditions de travail devraient permettre le retrait. Je ne suis pas sûr que juridiquement, comme l'a très bien dit Hélène Risser, ce soit possible et validé.
Alors, il y a Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui a déclaré, le gouvernement n'écoute rien, il faut passer à la vitesse supérieure. Il y a effectivement quatre syndicats, dont la CGT, qui appellent à rejoindre le mouvement annoncé le jeudi 5 décembre par la RATP et la SNCF. Étienne Girard, nous sommes dans l'antichambre du mouvement de mobilisation contre les retraites.
Oui, totalement, d'autant plus qu'à la SNCF, il y a un esprit de revanche à l'égard de la réforme de l'année dernière et de l'idée partagée dans les rangs cheminots que leur grève, qui leur a coûté cher en salaire, a été écrasée par la direction. Il y a un sentiment de défaite et donc une volonté de revanche. Il y a ce sentiment que c'est possible de faire quelque chose contre cette réforme des retraites, qu'on a perdu la première bataille, mais qu'on n'a pas encore perdu cette guerre-là. Et d'autant plus que la RATP a donné des signaux selon lesquels ils vont mener une résistance coûte que coûte contre la réforme des retraites. Donc à la SNCF, on souhaite se mettre en marche, si je puis dire, dans ce mouvement-là. Cette réforme.
Alors, Franck Tapiro.
Il y a un truc curieux quand même, c'est qu'on parle contre cette réforme des retraites, Enfin, c'est quand même curieux. Depuis un mois, cette réforme des retraites avance sans arrêt. Il y a la discussion, il y a la concertation. Rien n'est arrêté. Ce qui me sidère, c'est contre quoi? C'est-à-dire que moi, il y a un moment, je veux bien.
Elle avance pas, moi.
Attendez. Il y a Delevoye qui fait 300 réunions depuis, je sais pas combien de temps, depuis quelques semaines. Il y a le Premier ministre qui est sur le terrain. Qu'on critique. On peut tout critiquer, mais à un moment, on peut pas critiquer le fait que, il y a une vraie discussion, il y a une vraie concertation, que les choses soient pas bloquées, et qu'ils ont dit depuis le début, depuis Rodez, que ça allait évoluer, qu'on allait écouter tout le monde. Donc à un moment, je veux bien savoir contre quoi on va se battre.
Je vous interromps, Franck.
En fait, il y a un régime universel.
Franck Tapiro, comme pour déminer cette contestation, le gouvernement a semblé, depuis deux jours, reculer sur ses conditions d'entrée dans le futur régime. Voici ce que disait Jean-Paul Delevoye. C'était avec Marc Fauvel sur France Info ce matin.
Nous gardons le cap. Mais il ne vous a pas échappé que sur les 42 de régime, il y a 42 situations différentes, et que donc, si l'objectif est très clairement identifié, les chemins pour l'atteindre sont totalement adaptés. Il y aura un point de départ qui sera unique, et une durée de transition qui sera adaptée à la situation de chacun. Chacun ira à son rythme en fonction de l'acceptabilité sociale, de la situation de départ et du point d'arrivée.
Franck Tapiro, il y a ce mouvement en cours à la SNCF pour des conditions de travail, il faut le préciser ce soir, mais on parle aussi de ce, en même temps, évoqué par Hélène Risser tout à l'heure. Il est urgent de ne pas se presser, c'est ça la nouvelle idée sur les retraites ?
Je pense pas. Je pense en fait qu'il y a eu un problème de pédagogie et même un problème de sémantique. C'est que beaucoup de gens ont cru, je pense, qu'on passait de 42 régimes à un seul régime, un régime unique. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est un régime universel, c'est totalement différent. C'est un régime qui va être une modalité assez commune, mais qui va s'adapter en fonction, bien entendu, des différentes branches. C'est pas la même chose. Unique, c'est la même chose pour tout le monde. Là, ça va être plus adaptatif. Donc encore une fois,
ça risque d'être très adapté. On parlait quand même de suppression des 42 régimes au départ.
On parle de beaucoup de choses.
D'unification.
Mais in fine, regardez sur le terrain. Je suis désolé, mais ce qu'il y a d'écrit, ce qu'il y a de fait, pour une fois, c'est raccord. Donc on peut pas se plaindre d'un gouvernement qui décide tout à l'avance façon 49-3, et alors qu'il est sur le terrain pour essayer de voir tout le monde. Et il voit tout le monde. Delevoye, je peux vous dire, il fait des réunions. Je crois, 320 réunions, de prévues dans les prochaines semaines. C'est énorme. Un premier ministre sur le terrain, le président qui va. On peut peut-être critiquer, mais critiquer quelque chose de solide. Là, c'est pas solide, c'est fluide, ça avance. Donc, on peut aussi peut-être se dire que dans quelques temps, on disait tout à l'heure, est-ce que cette grande mobilisation du début décembre va pas.
Sur la manière de présenter la réforme, quand même, il y a eu un certain glissement, on le voit bien, parce qu'au début, l'idée, c'est quand même. Ce système à points, l'idée et la discussion telle qu'elle était présentée, il y aura une concertation autour des générations pour lesquelles ça va s'appliquer. Donc on voyait bien que c'était partir de quelle date et à quelle génération ça s'appliquera. Et depuis quelques temps, vous avez passé un sonore, mais le Premier ministre avait déjà été dans cette tonalité-là il y a quelques temps, en expliquant bien qu'une des questions serait aussi autour de à quel régime, ça ne s'appliquerait pas forcément pour certains régimes à la même vitesse que pour les autres. Donc on voit bien qu'il y a la question des régimes spéciaux à nouveau qui se pose et qui cristallise.
Thomas Clé, le temps a changé.
Toute la diplomatie gouvernementale.
Alors il y a une manière optimiste de voir les choses, c'est celle que vient de défendre avec beaucoup de talent Franck Tapiro, un véritable plaidoyer pour cette méthode gouvernementale. On discute, on avance, rien n'est figé. Et j'aimerais bien qu'il ait raison. Puis il y a une autre manière de voir les choses, c'est qu'il y a eu des annonces qui ont été faites, et puis devant la résistance qui est finalement peut-être encore plus forte que ce qui avait été prévu, alors qu'en matière de retraite, on pouvait légitimement penser et anticiper une forme de résistance assez forte. On a commencé à nous dire, quand même, le président de la République nous l'a dit en sortant du G7, ce qui compte, c'est plus tellement l'âge de départ, c'est la durée de cotisation. C'était un premier coup de théâtre. Et puis là, le Premier ministre nous a dit ensuite, on n'ira pas, on n'imposera pas la réforme contre l'opinion majoritaire contraire, etc. Donc, on peut aussi y voir, c'est la vision pessimiste des choses, une succession de reculades, et pour ma part, je trouve que ce serait dommage.
20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Après les très grosses perturbations du jour sur le réseau des TER, la SNCF dit tout mettre en œuvre pour un retour à la normale demain pour les départs en vacances. La compagnie ferroviaire dénonce la grève sans préavis de bon nombre de ses conducteurs. Eux font valoir leur droit de retrait. Ils expliquent ne pas se sentir en sécurité, seuls dans des trains alors que de moins en moins de contrôleurs les accompagnent. C'est dans cette situation que se trouvait l'un des leurs lors d'un accident sur un passage à niveau dans les Ardennes il y a 2 jours. L'association des contribuables de Levallois-Perret s'étonne sur France Info de la relaxe des époux Balkany pour délit de corruption. Isabelle Balkany réaffirme après son procès aujourd'hui qu'il n'y a pas un centime d'argent public dans cette affaire. Le maire de Levallois-Perret et son épouse sont respectivement condamnés à 5 et 4 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale, peine assortie de 10 ans d'inéligibilité. Leurs avocats font appel de ces décisions. Marée humaine ce soir à Barcelone. Plus de 500 000 indépendantistes sont dans les rues d'après la police municipale. Après 5 jours de mobilisation et 4 nuits de violence, ils continuent à crier leur colère. Plusieurs de leurs dirigeants ont été condamnés à de la prison pour avoir organisé un référendum sur l'indépendance. Bruno Le Maire juge profondément injuste les sanctions douanières américaines contre les importations de vin français aux États-Unis. Elles entrent en vigueur aujourd'hui. Le ministre de l'Économie y voit un geste agressif de la part d'un allié. Et puis on joue depuis 5 minutes entre Nice et le Paris Saint-Germain à l'Allianz Riviera. Il y a toujours 0-0 entre les deux clubs pour cette reprise du championnat. C'est la 10e journée de Ligue 1.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Venons-en à la trêve dans l'offensive turque contre les forces kurdes au nord-est de la Syrie. Situation fragile. 14 civils, 8 combattants kurdes tués dans le nord du pays lors de frappes de la Turquie et de ses supplétifs, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis Emmanuel Macron, au sortir du Conseil européen de Bruxelles, a fait cette révélation.
J'ai découvert par tweet que les États-Unis d'Amérique décidaient de retirer leurs troupes. Et j'ai compris qu'une autre puissance de l'OTAN décidait d'attaquer ceux qui ont été les partenaires de la coalition internationale sur le terrain pour se battre contre Daesh. Donc je considère que ce qui s'est passé depuis plusieurs jours est une faute lourde de l'Occident et de l'OTAN dans la région.
Étienne Girard, plusieurs choses dans la déclaration du chef de l'État. D'abord, il découvre par tweet. Ce qui est quand même très étonnant, c'est une forme de reproche que fait Emmanuel Macron à l'endroit du président Trump.
Oui, totalement. Il s'étonne des méthodes baroques du président Trump qu'on ne découvre pas, mais on aurait pu penser quand même. Je reconnais un certain étonnement à constater que donc il ne prévient même pas ses partenaires des décisions qu'il prend. Bon, bah un étonnement de plus concernant la présidence Trump. Sur le fond, ce qu'on constate, c'est une certaine impuissance de la France dans ce dossier-là, impuissance qui s'explique par la position stratégique qu'occupe la Turquie dans le filtre de l'immigration et des migrants qui souhaitent se tourner vers l'Europe. Cette position-là, Erdogan, le président turc, en a fait une méthode de chantage extrêmement efficace.
Thomas Clay, que pèse l'Europe dans cette affaire ?
Pas assez, comme d'habitude sur ces conflits dans l'espace européen, si on inclut la Turquie. Je crois que la déclaration du président Macron est très bien, comme souvent d'ailleurs en matière de politique étrangère. Ce qui me frappe, c'est deux choses. Premièrement, on nous annonce un cessez-le-feu. Mais traditionnellement, un cessez-le-feu, ça se fait entre parties belligérantes. Là, c'est un cessez-le-feu qui se fait entre les États-Unis et la Turquie. On ne demande pas leur avis aux Kurdes. Donc,
on leur demande juste de partir.
C'est un cessez-le-feu unilatéral. Et d'ailleurs, ils ne sont pas du tout satisfaits par les conditions de ce cessez-le-feu. La deuxième chose, c'est quand même la déclaration de Trump, cette fois-ci pas par tweet, mais hier en meeting, où il déclare son amour au président Erdogan en disant que c'est un grand dirigeant, que c'est un ami, que c'est une personne extraordinaire. Alors oui, on n'est pas un étonnement de plus, mais enfin, c'est chaque fois une source d'émerveillement. Alors,
puisque vous citez Donald Trump, juste une précision à propos des frappes qui ont eu lieu aujourd'hui. Je viens de parler, dit-il au président Erdogan. Il m'a dit qu'il y a eu des tirs de mortier mineurs qui ont été rapidement supprimés. Il veut vraiment que le cessez-le-feu ou la trêve fonctionne. Les Kurdes le souhaitent aussi. Il y a de la bonne volonté des deux côtés et des bonnes chances que ça fonctionne. Franck Tapiro, jour après jour, l'étonnant Monsieur Trump nous surprend avec ses tweets et ses déclarations qui sont souvent des volte-face.
Pas du tout. Il est totalement en phase avec ce qu'il fait depuis le début des primaires. Il est en campagne. On oublie, là aussi, on parlait tout à l'heure des Balkany en campagne pour les municipales, mais il est en campagne, la campagne elle a commencé.
Son propre camp aujourd'hui commence à s'y faire.
Mais de toute façon, son propre camp, rappelez-vous que les Républicains eux-mêmes voulaient le dessouder quand il était face aux sept candidats.
Oui, mais là, il heurte son camp, là, il se fragilise, il s'en prend à l'OTAN.
Mais justement, il est aujourd'hui dans une réappropriation de sa parole, d'annonce de victoire. Alors qu'il est, et ça faut quand même le dire, on n'a pas parlé une seconde depuis le début, le responsable de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le seul dont on ne parle pas, c'est Poutine. Donc il claironne à la victoire, mais est-ce que vraiment il est le seul à avoir effectué ce cessez-le-feu ? On sait très bien quand même que sans la présence inquiétante, pesante et lourde de Poutine...
que Poutine mettait la main sur l'ensemble.
Bien entendu, mais enfin, c'est très bien que c'est lui qui a fait la passion.
Mise, comment on dit. Bah, c'est un vrai stratège, lui, pour le coup.
Mais bien entendu, il y a une bipolarité entre les deux extraordinaires. Il y en a un qui claironne, qui fanfaronne sur Twitter, il y a un qui fait le boulot et qui ne dit rien. Pourquoi ? Parce que Poutine n'a pas besoin de se faire de publicité. Bavard, oui. Non, mais justement, c'est lui qui agit. Le communicant, c'est Trump. Et le mec qui fait le boulot, c'est Poutine. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Oui. Et malheureusement, Emmanuel Macron fait une formidable, vous l'avez dit tout à l'heure, déclaration. Mais il peut faire que ça aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'il agisse ?
Concernant Donald Trump, je pense qu'il avait cette obsession effectivement de clore ce chapitre d'intervention américaine. Et donc du coup, ça a été, je pense, sa principale préoccupation. Et puis maintenant, il s'émerveille de cet accord. il assure le service après-vente. Après, concernant les dirigeants européens, c'est vrai qu'ils ont été extrêmement silencieux. Et c'est pas évident. On dit la déclaration d'Emmanuel Macron... Alors à la fois on peut dire elle est courageuse parce qu'effectivement admettre qu'on apprend les événements par tweet, c'est à la fois un aveu d'impuissance incroyable, on le sent en même temps en colère et on a envie de se dire ah bah c'est bien qu'on entende les Européens parce qu'ils ont quand même mis beaucoup de temps à intervenir. Ce serait peut-être bien aussi que d'autres s'expriment sur ce terrain-là.
Il faut rappeler aussi Étienne Girard le départ du quinquennat où les présidents français et américains se serraient la main et jouaient quelque part un jeu de on va dire de concours de muscles un petit peu entre eux et voilà c'était une sorte d'amitié scellée et aujourd'hui nous en sommes très loin. Emmanuel Macron découvre les tweets de Donald Trump.
Bah on sent Emmanuel Macron quand même assez stupéfait devant le cavalier seul de Donald Trump et ses attitudes totalement inattendues et imprévisibles. C'est très difficile quand on ne connaît que les codes de la diplomatie classique de s'adapter à Caligula de 2019 qu'est Donald Trump.
Votre une pour Marianne cette semaine, Étienne Girard.
Oui, c'est une enquête événement sur les frères musulmans, leur stratégie de conquête en France, 10 pages d'investigation.
À lire donc dans le magazine hebdomadaire Marianne. Hélène Risset en rappelle l'émission hashtag sur Public Sénat.
Oui, ce week-end, en rediffusion et en multidiffusion ce week-end. Allez. Contactez un retour sur l'incendie de l'usine Lubrizol et toutes les rumeurs que cela a entraîné sur les réseaux sociaux.
Merci Hélène Risser, merci à vous Étienne Girard, merci à Franck Tapiro et à Thomas Clé d'avoir participé à ces Informés de France Info. Ce week-end, ce sera en compagnie l'émission de Neila Latrousse. Je vous dis bonne soirée.